suis en train de faire un des travaux pour le séminaire. Et puis, si on m'entend pas dans le micro, ça l'enregistrera pas et puis on pourra pas m'évaluer. Mais là, je pense que je suis là. OK? Donc, il y a une double nervosité ce matin d'être devant vous pour partager la parole de Dieu, mais sachant aussi que je vais être évalué pour ça. Mais par la grâce de Dieu, on est ici. Puis c'est par sa grâce qu'on est ici et qu'on peut ouvrir sa parole et puis la lire en toute liberté, apprendre de sa parole. J'aimerais que vous invitiez à tourner avec moi dans Exode au chapitre 24. Exode 24. Exode 24, et je vais lire à partir du verset 1. Exode 24, verset 1. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point vers moi avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous. » Selon toutes ces paroles, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. J'aimerais vous inviter à vous courber avec moi dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on se présente devant toi ce matin. Nous venons tout juste de chanter les chants de louange, Seigneur, et les louanges à ta gloire, parce que tu es un Dieu glorieux, un digne de recevoir l'adoration. Mais tu es un Dieu aussi qui veut avoir une relation avec son peuple. Et comme on le voit dans ce passage, Seigneur, tu es descendu vers Israël afin d'établir une alliance avec eux. Seigneur, même si ces événements se sont passés il y a peut-être 3500 ans, certainement qu'on a des choses à retirer pour nos vies, Seigneur, des éléments que tu as à nous enseigner ce matin et qu'on veut appliquer à nos cœurs. Et Dans ta grâce, Seigneur, viens nous parler à travers ce passage et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Que nous puissions venir à toi, Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, et te louer et t'adorer par nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'étais un grand fan des Nordiques de Québec. Quand je restais à Québec, on avait le privilège de pouvoir de temps en temps aller voir un match des Nordiques. Dans le temps, les billets n'étaient pas très chers et puis on pouvait avoir des billets dans les galeries. 5 $ le billet avec les coupons rabais. Et puis, on pouvait aller voir les matchs des Nordiques. Mais à un moment donné, on a eu un privilège, mon frère et moi, le privilège d'avoir des billets gratuits. Mais près, la première rangée, sur le bord de la baie vitrée, un après-midi, un dimanche après-midi, les Nordiques de Québec contre les Pingouins de Pittsburgh. Et puis, on avait, à ce moment-là, l'occasion de voir Mario Lemieux jouer avec les Pingouins. Et puis, pendant que... on jouissait de ce privilège-là d'être au match des Nordiques, près de la, tout près du match, de voir les joueurs de près. À un moment donné, pendant une des périodes, des quelques secondes de réchauffement avant une période, les joueurs des Pingouins étaient de notre côté, ils patinaient, puis à un moment donné, on voit Mario Lemieux s'approcher. Et puis mon frère a la brillante idée de se lever et de taper dans la baie vitrée et de dire « Hey, let's go Mario! » Et puis au moment où Mario Lemieux passe, il fait un clin d'œil à mon frère. Ça, dans la vie d'un jeune homme de 13-14 ans, ça marque et on va s'en souvenir. C'est un privilège de pouvoir assister au match des Nordiques, puis un privilège aussi pour nous de même avoir un clin d'œil de Mario Lemieux. Je suis sûr qu'il n'y a personne ici qui peut se vanter de ça aujourd'hui. C'est un privilège pour nous, mais en même temps, c'est un privilège qui était limité. Un privilège qui était limité parce que Mario Lemieux, malgré tout ça, n'est pas devenu mon grand chum cette journée-là. J'ai pas pu développer une relation avec lui qui me permettait d'aller chez lui et d'apprendre des trucs de lui au hockey pour que je pouvais appliquer. Non, c'était un privilège qu'on a eu, mais un privilège qui était limité. Et dans le passage de ce matin, ce qu'on voit, c'est que Dieu va accorder un privilège à Israël. Le privilège qu'il devienne son peuple. Et puis, en même temps, ce privilège-là, c'est un privilège qui est limité. Après avoir délivré Israël de l'esclavage en Égypte, Dieu va établir une alliance avec Israël. Dans Exode 19, entre autres, on voit que Dieu a acquis le peuple d'Israël en les délivrant de la main des Égyptiens, en les délivrant de l'esclavage. Et il dit au peuple d'Israël, « Je vous ai choisi d'entre les peuples et vous allez être mon peuple, une nation sainte. » Dieu donne au peuple d'Israël des lois et des ordonnances auxquelles ils doivent obéir. Le peuple doit obéir afin d'être une nation sainte qui vit pour la gloire de Dieu. Et dans le passage de ce matin, après s'être présenté une première fois à Israël un peu plus tôt, Dieu vient à la rencontre de son peuple pour confirmer l'alliance avec lui. Et à travers cette confirmation de l'alliance, on voit que Dieu va manifester sa gloire et sa sainteté en limitant l'accès à sa présence. On voit dans les premiers versets du passage, Dieu appelle Moïse à monter sur la montagne avec Aaron, ses fils et les anciens d'Israël. Mais il y a une condition. Il y a juste Moïse qui va s'approcher, qui va monter jusqu'au sommet à la rencontre de Dieu. Les autres, les anciens, les leaders du peuple, doivent se prosterner de loin et le peuple, lui, ne va pas monter vers l'Éternel. Donc, c'est un privilège pour le peuple d'Israël d'être le peuple de Dieu. Et en même temps, ce privilège-là était limité parce qu'ils n'avaient pas accès à la présence de Dieu. C'était impossible pour le peuple d'entrer directement en relation avec Dieu. Ce privilège-là était accordé à une personne, c'était à Moïse. Et plus tard, on va voir qu'est accordé à une personne en particulier, le souverain sacrificateur. C'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Mais dans le passage, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu vient confirmer l'alliance. Et il dit à Moïse, tu vas monter vers moi. Et puis ensuite de ça, Moïse descend vers le peuple qui s'engage à obéir à l'Éternel. Et dans les versets 3 à 8, on voit que Moïse écrit les paroles qui lui ont été données auparavant. Et puis il se lève pour bâtir un autel à l'Éternel, offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et Moïse, à travers ces holocaustes-là, va garder le sang. Il va répandre la moitié du sang sur l'autel. Et ensuite de ça, va lire le livre de l'Alliance et répandre le sang sur le peuple. À travers ça, on voit que, et on apprend dans l'Ancien Testament que c'était l'expiation des péchés qui était faite à travers ça. Et puis le peuple avait, pour pouvoir se présenter devant Dieu, devait se purifier, être purifié à travers le sang des sacrifices. Mais le peuple s'engage à obéir à Dieu après que Moïse ait lu les paroles de l'Alliance. Ça se passe dans les versets 3 à 8. Ensuite, dans les versets 9 à 11, on voit maintenant ce qu'on a lu dans les deux premiers versets, c'est que Moïse, Aaron et ses fils et les 70 anciens d'Israël s'avancent vers Dieu, montent vers Dieu, et ils voient là la gloire de Dieu en partie. Et pour eux, c'était, le verset 10 nous dit que c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Une vision indescriptible de la gloire de Dieu est donnée aux anciens d'Israël, aux leaders d'Israël. Et puis ensuite de ça, on voit qu'ils prennent un repas ensemble, qu'ils prennent le repas, ils vont manger et boire devant l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est en train de confirmer l'alliance qu'il est en train d'établir et il accepte les représentants d'Israël dans sa présence, démontrant ainsi qu'il développe une relation avec Israël, un privilège que les autres peuples n'ont pas. Et ça, c'est démontré par le fait au verset 11 que Dieu n'a pas étendu sa main sur les anciens d'Israël, mais les a préservés. Il a vu les holocaustes comme quelque chose qui pourrait les purifier et pouvait entrer dans sa présence. Ensuite de ça, Moïse va monter vers l'Éternel et les anciens vont redescendre et ils vont monter seuls devant l'Éternel et Moïse va rencontrer l'Éternel au sommet de la montagne. Il va goûter à ce privilège de voir et de discuter, peut-être, on ne va pas dire voir, mais de discuter avec Dieu face à face comme on discute avec un ami, comme nous dit Exode 33. Et Moïse a ce privilège d'entrer et d'aller et de voir une partie de la gloire de Dieu et de discuter avec lui. Et ça va jusqu'au point que lorsque Moïse est descendu de la montagne, certains d'entre vous se rappellent, le visage de Moïse rayonnait à cause de la gloire de l'Éternel qui lui a été manifestée. La gloire, ensuite de ça, la gloire de l'Éternel est manifestée aux yeux des enfants d'Israël, verset 17, et l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant devant le peuple. C'est ce que le peuple est capable de contempler. Mais lorsqu'on lit le passage, ce qui nous est raconté, on voit que c'était un privilège, encore une fois, pour Israël d'être en relation avec le Dieu, l'Éternel, le Dieu vivant. Ce n'étaient pas tous les peuples qui avaient eu l'occasion ou l'opportunité de pouvoir être choisis parmi les peuples. Mais Dieu avait choisi Israël et c'est un privilège pour Israël de vivre dans cette alliance avec Dieu. Et le peuple d'Israël avait le bonheur de pouvoir jouir de la présence de l'Éternel au milieu d'eux. Mais c'est un privilège limité parce que ce n'est pas tout le peuple qui pouvait entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Peut-être la question qui vous vient à l'idée en regardant ce texte. Pourquoi le peuple ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu? Premièrement, quand on considère les Écritures, l'ancienne alliance ne permettait pas à tous les gens du peuple de s'approcher de Dieu. Deux raisons pour ça. Premièrement, la sainteté de Dieu. Et elle nous est révélée dans le passage par le fait que Dieu ne permet pas qu'on entre dans sa présence. L'Éternel est un Dieu pur, parfait. Les anciens décrivent ce qu'ils ont vu comme la pureté même, le ciel dans sa pureté. Et puis, ils n'ont pas le privilège d'entrer dans la présence de Dieu parce que Dieu est un Dieu saint et aucun mal ne peut entrer dans sa présence. C'est un privilège limité de pouvoir entrer dans la présence de Dieu parce que Dieu est un Dieu saint, un feu dévorant. l'être le plus parfait, le plus beau qui existe. Et ça, c'est à cause de l'homme, à cause que l'homme est pécheur. Le péché de l'homme rend l'homme imparfait aux yeux de Dieu, parce que le péché, c'est la transgression à la loi de Dieu. Et à cause de cela, la présence, entrer dans la présence de Dieu, à cause de son imperfection, l'homme ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Et par nature, tous les hommes, la Bible nous dit, que tous les hommes sont pécheurs et mauvais. Leur cœur est entièrement tortueux et ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. Une des choses qu'on voit, que j'ai vu dernièrement dans un film, c'est, et qui explique un peu comment l'homme est tortueux et comment l'homme est méchant et ne peut pas entrer dans la présence du Dieu Saint à cause de sa méchanceté. J'ai vu un film, c'était le film sur la vie du commandant Piché, qui pilotait le vol d'Air Transat aux Açores. Et puis à un moment donné dans le film, on voit qu'il a vécu des moments difficiles en étant en prison à l'extérieur aux États-Unis. Et puis, suite à ça, il y a des séquelles de toute l'horreur qu'il a vue. Et puis il dit, à un moment donné, il est avec un des psychologues de la prison, et plutôt de pas de la prison, mais d'un centre de réadaptation. Et puis il discute avec le psychologue et il dit, j'ai vu des horreurs. Il dit, j'ai vu le mal. Il dit, j'ai vu le mal là, mais je l'ai vu là aussi. Et c'est à cause de ça, à cause du mal dans notre cœur, de notre nature pécheresse, qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et que c'est un privilège de pouvoir entrer. C'est comme si une mariée, la mariée, l'épouse qui se prépare pour le jour de ses noces, met sa belle robe blanche et juste avant d'arriver pour la cérémonie, va se salir, va courir, je ne sais pas, dans le bois, faire un cross-country avant son mariage et arrive à son mariage avec la robe tout sale, inacceptable. Son mari ne la trouverait pas drôle, je pense. Qu'est-ce que tu as fait là? C'est la même chose. La même chose. On n'accepterait pas qu'une mariée arrive avec sa robe toute pleine de boîtes, on va le dire de même, dans une cérémonie de mariage. Dieu n'accepte pas dans sa présence le péché. Et puis, le Nouveau Testament nous apprend que le sang des holocaustes n'était pas suffisant pour ramener à la perfection. Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Hébreux 10. Parce que c'est là qu'on va comprendre qu'est-ce que on doit comprendre pour nous aujourd'hui. Hébreux 10, on va lire le passage dans Hébreux 10 à partir du verset 3. À travers les holocaustes de l'Ancien Testament, ça nous dit que le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Donc, en quelque sorte, lorsque Moïse va sacrifier, offrir des animaux en holocauste, il est suffisant pour couvrir le péché, on voit ailleurs dans les Écritures, mais pas suffisant pour ôter le péché et purifier entièrement de tous les péchés. Et à cause de ça, l'homme ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Et le peuple d'Israël n'avait pas ce privilège d'entrer dans la présence même de Dieu. Les sacrifices devaient être offerts chaque année, le sacrifice d'expiation. Et puisqu'il n'amenait pas les gens à la perfection, le peuple n'était pas admis dans la présence de Dieu. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer pour apporter l'offrande du peuple et pour apaiser la colère de Dieu envers le peuple. C'est comme ça que les sacrifices dans l'Ancien Testament fonctionnaient. C'est un souverain sacrificateur qui offrait les sacrifices pour le peuple et intervenait pour le peuple et offrait les sacrifices en faveur du peuple. Mais la question qui nous vient à l'esprit, est-ce que c'est possible même pour des hommes, pour nous aujourd'hui en 2012 maintenant, d'entrer dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est possible de pouvoir entrer dans la présence de Dieu? Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble le reste, une partie du chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Et on va lire à partir du verset 11 maintenant. Il parle de l'Ancien Testament, des sacrifices de l'Ancien Testament. Il dit, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Un peu plus loin, verset 17, à travers ce que Christ a offert comme sacrifice, Dieu dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le passage ici? En fait, les sacrifices de l'Ancien Testament étaient là pour préfigurer et montrer quelque chose de plus grand qui s'en venait. Et qu'est-ce qui est venu? C'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui a mené une vie parfaite pour aller jusqu'à la croix, s'offrir comme une victime parfaite sur la croix du Calvaire et verser son sang. Et le sang de l'agneau de Dieu, lui, amène à la perfection et ôte les péchés. Alors, est-ce que je peux maintenant entrer dans la présence de Dieu? Verset 19, chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Verset 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors que dans l'Ancien Testament, Dieu disait, le peuple n'approchera pas. Aujourd'hui, Dieu dit, par la nouvelle alliance, approchons-nous, approchez-vous de moi. Par la nouvelle alliance, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez ce matin, c'est que par la nouvelle alliance qu'on a en Jésus-Christ, Dieu nous appelle à nous approcher de lui avec confiance. Par le sang de Christ, j'ai confiance maintenant que je suis entièrement purifié de mes péchés. Le sang de Christ est suffisant pour effacer tous mes péchés. Peut-être que dans ta tête ou dans ton cœur, tu te souviens de peut-être des moments dans ta vie, des horreurs que tu as faites, et des fois, tu te rappelles ces choses-là, il y a une culpabilité qui est là. En Jésus-Christ, tu peux trouver la liberté et être délivré de ça, parce que Dieu, par le sang de Christ, efface entièrement les péchés. Et maintenant, il établit une nouvelle alliance où Dieu dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés, il ne se souvient plus de mes péchés. À l'époque où on est, avec la technologie, les services web et Internet qu'on a, souvent on nous demande de créer un compte sur un site en particulier et de choisir un mot de passe qui va nous permettre de nous reconnecter sur notre compte personnel sur un des services qui est offert. Ça vous est probablement déjà arrivé, ça m'arrive de temps en temps, d'avoir créé un compte sur un site et puis après ça, tu t'en sers pas pendant 6 mois, puis là, tu retournes sur ce site-là, c'était quoi mon mot de passe? Puis tu as beau essayer, des fois, ils vont te suggérer des indices pour que tu as toi-même choisi pour essayer de t'en rappeler. Mais des fois, il n'y a pas ça et puis tu essaies de te rappeler, ça ne vient plus à l'idée, tu l'as complètement oublié. Laissez-moi vous dire que c'est ça que Dieu fait avec nos péchés. Pas capable de s'en rappeler. Il dit qu'il ne garde pas le souvenir. Évidemment, dans sa connaissance, Dieu est capable, il connaît tout. Mais il a décidé de ne plus s'en souvenir. Et maintenant, par le sang de Christ, en plus d'être purifié, j'ai confiance que je peux m'approcher de Dieu à tout moment afin d'être secouru. Hébreux 4, verset 16. J'aimerais juste vous le lire. Encore une fois, Dieu nous appelle à nous approcher de lui avec confiance. Et Hébreux 4, verset 16 dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Dieu m'appelle à m'approcher de lui pour être secouru. Et peu importe qu'est-ce qu'on peut vivre dans notre vie, les épreuves, les situations difficiles, Dieu dit, approchez-vous avec assurance pour être secouru. Dieu veut qu'on s'approche de lui. Et quelle que soit la situation que je peux vivre, Dieu m'appelle à m'approcher de lui et à être secouru. Par le sang de Christ, maintenant, Dieu m'appelle à m'approcher de lui. J'ai confiance que je peux communier avec lui à sa table. On va prendre le repas du Seigneur ensemble. Et comme Moïse et les anciens d'Israël ont célébré un repas de l'Alliance devant Dieu. Jésus nous appelle maintenant à entrer dans cette alliance et à participer à sa table. Et cette table-là préfigure quelque chose de plus grand qui s'en vient. Et qu'est-ce qui s'en vient? C'est le repas des noces de l'agneau dans le ciel pour l'éternité, où on va un jour, on va voir Dieu face à face. Et puis, il n'y aura pas besoin de se cacher parce qu'il nous dit dans sa parole qu'on va le voir tel qu'il est. Et maintenant, on peut jouir déjà de sa présence. Mais un jour, on va être avec lui pour l'éternité, jouir de sa présence pour l'éternité. Aujourd'hui, Dieu m'appelle à m'approcher de lui avec confiance. Pas comme dans l'Ancien Testament où Dieu disait de rester loin puis le privilège était pour certains. Le privilège est pour tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Et ce matin, peut-être que toi, tu es ici et tu n'as jamais placé ta foi réellement dans la personne de Jésus-Christ pour être pardonné de tes péchés, pour entrer dans le royaume de Dieu pour l'éternité et entrer dans sa présence, dans la joie éternelle. Et si tu ne l'as jamais fait, je t'invite à le faire, de reconnaître que Jésus-Christ est le seul moyen qui peut te sauver et te pardonner des péchés. Il n'y a aucun autre moyen que Dieu reconnaît comme valable pour pardonner les péchés et permettre l'entrée dans sa présence. Mais Jésus l'a fait. Jésus s'est offert. Et tu peux saisir par la foi en lui la vie éternelle qu'il t'offre et un jour jouir du privilège de le voir face à face. Frères et sœurs, réalisez-vous le privilège qu'on a, que plusieurs attendaient, que Israël était là dans l'éloignement et regardait de loin. Mais nous, on a accès à la présence de Dieu. On a accès à s'approcher de lui. Frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à profiter de ce privilège que nous avons, d'une relation intime avec Dieu. On peut aller dans sa présence parce qu'il nous a pardonné de nos péchés, il nous a effacé nos péchés. On peut aller dans sa présence pour être secouru. Et on peut aller dans sa présence aussi pour célébrer avec lui ce qu'il a fait pour nous. Prenons le temps, frères et sœurs, de considérer ce que le Seigneur et la bénédiction qu'il a pour nous en goûtant sa présence régulièrement dans nos vies et en nous approchant de lui chaque jour. On va se courber dans une prière. Oui, Seigneur, dans ta parole, on voit dans l'Ancien Testament combien tu annonçais à travers ces sacrifices et ces rituels que tu avais établis, quelque chose de plus grand que tu allais apporter. Ton Fils Jésus qui est venu s'offrir sur la croix pour nos péchés. Aujourd'hui, Seigneur, on peut vivre dans une relation intime avec toi à cause de Jésus-Christ. Tu nous appelles, Seigneur, à nous approcher de toi avec confiance. Et Seigneur, je veux mettre de côté toute la culpabilité que le péché pourrait provoquer en moi. Je veux te le confesser, Seigneur. Je veux te l'apporter, m'en repentir et te demander pardon pour le mal que j'ai fait. Mais en même temps, je veux jouir de ta présence parce que tu m'as promis que tu t'en souviendrais plus. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que par toi, on peut jouir du bonheur éternel. Aide-nous, Seigneur, à simplement réaliser le privilège que nous avons et qu'on puisse ensemble célébrer le Dieu glorieux que tu es et vivre dans la sainteté pour ta gloire, Seigneur notre Dieu. Que ton nom soit béni. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. On va prendre deux chants ensemble. Un chant qui nous rappelle la sainteté de Dieu, mais en même temps, qui est une prière pour nous, pour qu'on puisse contempler la gloire de Dieu, contempler sa sainteté. Et je vais laisser l'équipe de louanges nous diriger. On puisse célébrer ensemble le repas du Seigneur et célébrer ensemble l'accès à la présence de Dieu que nous avons en Jésus-Christ.